Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Julie Chitley, l'autrice des Enfants cachés de l'île aux moines, un secret enfoui sous l'occupation. Lecture de la quatrième de couverture. Ils s'appelaient Irène, Ilona, Georges, Daniel, Robert. 5 enfants juifs accueillis à partir de 1940 au meilleur des endroits, qui ont eu la vie sauve grâce aux habitants de l'île aux moines. Un secret resté enfoui depuis dans la perle du golfe du Morbihan. Au décès d'Irène, fin 2022, la plupart des Ilois découvrent le récit de ses sauvetages courageux et la rafle de 1943. Pour Julie Chitley, il était impensable que l'on ignore ou que l'on oublie que l'île aux moines fut un refuge et un havre de fraternité pour des familles traquées. Mais qu'il y eut là aussi des destins inachevés. Bouleversante et mémorielle, une enquête inédite pour l'histoire sur les lieux avec des témoins de l'époque. Passionnée par la Seconde Guerre mondiale, Julie Chitley est reporter pour Ouest France à Vannes, Les enfants cachés de l'île aux moines est son premier livre. Bonjour Julie Chitley, donc vous avez écrit un livre qui s'appelle « Les enfants cachés de l'île aux moines, un secret enfoui en sous-titre sous l'occupation » paru aux presses de la Cité. Je vous remercie de répondre à mes questions. J'en ai beaucoup.
Merci pour l'invitation.
J'en ai beaucoup des questions parce que c'est, pour des raisons personnelles, une question qui m'intéresse beaucoup. Je commence par la première question. Votre livre s'ouvre sur le retour des cendres d'Irène Coisse à l'île aux moines. Qui est Irène Coisse?
Alors Irène Coisse, c'est la petite fille qui est en photo sur la couverture du livre. Et c'est une femme dont la vie a été chahutée par la Seconde Guerre mondiale, par l'histoire. Elle est née en 1934. Elle est née dans une famille française avec des origines lituaniennes, polonaises. Et c'était une famille que j'ai trouvée un peu emblématique parce que elle a connu cette ascension sociale que beaucoup de familles juives ont connue. Son arrière-grand-père était ébéniste à Varsovie. Son grand-père est né là-bas et à ce moment-là, la famille a décidé de quitter la Pologne pour la France, venir tenter sa chance dans ce pays qui pour eux était le pays des droits de l'homme. Et donc, ils ont suivi ce chemin d'Europe de l'Est jusqu'à Paris, persuadés qu'ici, ce serait leur Eldorado et ça a été le cas en tout cas au début. Ensuite, c'est aussi Irène, la fille d'une femme avec un sacré caractère qui s'appelle Violette. Et donc, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Violette, la mère d'Irène, a eu le malheur de se signaler comme juive auprès de la préfecture, alors même qu'elle n'était pas pratiquante et que la famille aurait vraisemblablement abandonné toute pratique religieuse quand elle est arrivée en France. Donc Violette a été fichée comme juive par le régime de Vichy, obligée de porter l'étoile jaune, et ça a été aussi le cas de la petite Irène qui avait à ce moment-là 8 ans. Donc elles se sont toutes les deux réfugiées à l'île aux moines où les grands-parents avaient une maison de vacances et le père d'Irène, le mari de Violette, était prisonnier de guerre en Allemagne comme beaucoup de Français. Donc voilà qui était Irène et cette petite fille, sa particularité c'est qu'elle s'est retrouvée pour le coup pendant la guerre sans parents puisque son père donc était prisonnier de guerre et sa mère s'était fait arrêter en mars 1943 à l'île aux moines.
Donc elle fait partie des enfants cachés de votre livre.
Et elle est celle qui a en fait été l'histoire qui a été la plus marquante à tel point que l'un des interlocuteurs m'avait dit « Mais votre livre, il a un titre tout trouvé, c'est Irène ». Alors évidemment, je parle d'autres enfants, donc je ne l'ai pas appelée comme ça, mais c'est vrai qu'elle aurait mérité un livre à part finalement.
Oui, oui, parce qu'en plus, c'est une personnalité très forte que vous n'avez pas connue, mais qu'on vous a beaucoup
non,
raconté.
Malheureusement, à quelques semaines près, je ne l'ai pas connue. Et c'est vrai qu'elle a aussi une histoire très forte avec l'île parce que c'est donc sa mère Violette qui avait tout organisé pour que sa fille soit sauvée au cas où. Et donc lorsqu'elle est arrêtée, tout se met en place. Une amie qui habite en face de l'école va prévenir la religieuse enseignante de cette école. La religieuse garde Irène en classe et ensuite Irène est exfiltrée et envoyée en zone libre. Voilà, donc c'est. Ça montre bien que voilà, l'île s'est mobilisée, la population s'est mobilisée conformément aux souhaits de Violette pour protéger cette petite fille.
Oui. Et donc, sa mère, le parcours de sa mère, moi, m'a particulièrement émue. Et en particulier, son arrestation et son internement, parce que j'ai trouvé ça. Enfin, c'est une histoire finalement peu connue, celle-là.
Oui, c'est une histoire très singulière, effectivement. Donc Violette, elle a un peu plus de 40 ans à ce moment-là lorsqu'elle est arrêtée. Donc elle est arrêtée avec sa belle-mère, la mère de son mari, la grand-mère paternelle d'Irène. Elles sont toutes les deux envoyées à la prison de Vannes, à la prison de Rennes et ensuite à Drancy. Et tandis que la grand-mère est déportée, comme malheureusement beaucoup de femmes de cet âge-là, Violette, elle a un statut particulier. Elle est femme de prisonnier de guerre et donc elle est non déportable, en tout cas provisoirement. Et au moment où elle arrive, donc au printemps 43, le camp de Drancy sature. Et donc à ce moment-là, il est décidé que les non déportables soient envoyés dans des camps de travail pas à l'Est, mais dans Paris même. Et moi, j'ai découvert l'existence de ces camps en travaillant sur l'histoire de Violette. Violette, elle n'a jamais parlé de tout ça. Irène non plus. Les gens de l'île qui la connaissaient depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ignoraient toute cette histoire. Et donc Violette arrive dans un de ces camps qui s'appelle Léviton. Donc c'était un magasin de meubles, célèbre avant-guerre visiblement, qui avait été réquisitionné par la Wehrmacht. Et ils s'en servaient comme un entrepôt où ils amenaient tous les meubles, tous les tableaux, tous les bibelots, tout le contenu des appartements des Juifs qu'ils avaient arrêtés. Et ils les ont obligés donc des travailleurs forcés, prisonnières, prisonniers comme Violette, à nettoyer, à réparer, à trier tous ces objets pour ensuite envoyer tous ces objets spoliés en Allemagne. Et donc ensuite, Violette est envoyée dans un deuxième camp. Elle fait partie des rares prisonnières aussi qui ont été dans deux camps. Donc après Léviton, elle est envoyée dans le 13e arrondissement, dans un camp qui s'appelle le Quai de la Gare, un entrepôt qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est terrible de penser que cette femme qui a grandi dans une famille éduquée, dans une famille bourgeoise, hein, on peut le dire, et qui devait aimer l'art, la poésie, la peinture, la littérature, elle s'est retrouvée là à devoir trier des objets qu'elle savait voler, de gens qu'elle devait deviner morts ou condamnés à mort. Et donc voilà. Et ensuite, elle a fait un beau pied de nez, je trouve, à son destin, parce qu'elle s'est servie quelque part de ce savoir-là qu'elle a acquis malgré elle et voilà, dans une période extrêmement douloureuse, pour ensuite faire son métier, puisqu'elle a ouvert ensuite un stand d'antiquité au Puce de Saint-Ouen, et plus tard, proche de la retraite, une brocante à l'île aux Moines, tout ça après la guerre.
Oui, alors aussi, moi j'ai trouvé ça extrêmement, enfin, ironique, enfin,
Oui,
et
complètement.
violent. Et je me suis demandé si c'était pas une des raisons pour lesquelles elle n'a pas parlé de sa déportation, enfin, qu'elle a, même si vous écrivez qu'elle a cherché à avoir un statut de victime, mais elle a très peu parlé quand même.
Oui, et puis elle l'a fait très tard, cette recherche de statut. Je pense qu'elle avait une sorte de honte qui est assez commune, d'ailleurs, à celle des enfants cachés, de se dire, voilà, moi, j'ai pas été déportée, j'ai eu, entre guillemets, la chance de ne pas être déportée, et donc je ne peux pas m'en plaindre. Et voilà. Et c'est vrai qu'elle a participé à la spoliation malgré elle. Ça restait quelque chose de très tabou et de très compliqué, en effet.
Oui, elle est devenue à la fois victime et bourreau, enfin, sans
Voilà,
forcée à
sans le
être,
vouloir.
voilà,
Complètement.
contrainte et forcée pour survivre. Et il y a quelque chose d'ironique en plus à prendre son
Et je trouve
métier.
de particulièrement difficile parce qu'en plus, par la suite, elle a dû se sentir honteuse et coupable.
Oui.
Effectivement.
Mais c'est certainement aussi comme ça qu'on lui a parlé, quoi. Enfin, toi, tu n'as rien vécu, quoi. Et
C'est possible.
oui. Et puis vous avez découvert aussi qu'elle avait réussi à s'échapper
Tout à
de
fait.
l'évitant, et ça aussi, vous n'avez presque rien trouvé, en fait, en dehors de ce
Non,
fait.
malheureusement, j'ai juste su qu'elle s'était échappée pendant un transport. Alors, j'ignore si c'était entre Léviton et un retour à Drancy. Peut-être qu'ils étaient ramenés à Drancy de temps en temps. Toujours est-il que j'ai su qu'elle s'était cachée dans une poubelle du fait de sa toute petite taille et qu'elle a pu ainsi échapper au destin qui a été celui de beaucoup de femmes de prisonniers de guerre d'être emmenées à Bergen-Belsen.
Oui. Oui, ben en fait, voilà, mon grand-père, dans ses notes, qui a été prisonnier de guerre, dit que ma grand-mère était déportée à Bergen-Belsen. Il écrit que arrivent les femmes de chez les Vitans, et je n'en avais moi. Voilà. Ça me disait un peu quelque chose, mais voilà.
Et c'est ça, elles n'étaient pas très nombreuses, je pense tout au plus une centaine, et Violette aussi faisait partie de ces camps. Et ces camps, il faut savoir aussi qu'il y avait encore très peu d'archives, finalement certaines ont été détruites, beaucoup ont été détruites. J'ai pu la trouver dans un listing de noms, mais on aurait aussi pu ne pas la trouver, et que ce soit pourtant vrai. Toute la difficulté aussi était dans la vérification de ces infos, parce que finalement, pour moi, c'était vraiment important de vérifier. Comme elle n'en avait pas parlé directement, c'est vrai qu'il fallait qu'on soit sûr de pouvoir affirmer qu'elle était bien parmi ces travailleuses forcées.
Ouais. Je voudrais revenir à l'origine de votre écriture, parce que vous nous dites comment vous découvrez les secrets de l'île aux moines, puisque vous intéressez beaucoup à cette histoire, et vous avez fait très récemment la découverte de ces secrets. Comment est-ce que vous l'avez fait ?
Oui, effectivement. Et donc, je ne l'ai même pas, j'ai même pas découvert cette histoire par le biais d'Irène et de sa famille. Finalement, Irène vivait toujours au moment où j'ai démarré cette enquête. Et cette enquête, elle a vraiment démarré avec un message de Paul Marx, qui est le neveu d'un déporté, et qui souhaitait savoir pourquoi son oncle avait été arrêté à l'île aux Moines. C'est une famille qui est du nord de la France et qui n'a vraiment aucun lien avec l'île aux Moines. Le père de Paul, oui, c'est ça, et ses autres frères et sœurs se sont tous cachés à Londres, tous réfugiés à Londres pendant la guerre, sauf cet oncle Henri, qui est parti donc de Calais pour aller en Bretagne. Et donc, quand il envoyait ce message, j'étais interpellée parce que je n'avais jamais entendu parler de cette histoire ni d'arrestation à l'île aux Moines. Et il s'est avéré que c'est vrai qu'Henri avait été arrêté le même jour que Violette, donc la mère d'Irène, et sa grand-mère également. Et c'est ainsi que j'ai commencé à tirer le fil. On m'a dit qu'Irène vivait toujours. J'ai essayé de la voir, ça n'a pas été possible, elle est décédée très peu de temps après, mais j'ai pu trouver des gens qui les ont connus, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Alors justement, vous avez trouvé à la fois beaucoup de choses et peu, hein, par moment, vous le dites,
oui, c'est vrai.
mais vous êtes trouvé avec une masse d'informations, et comment est-ce que vous avez réussi à construire un récit qui se tient?
Ben alors en fait, la difficulté, c'était aussi d'avancer tout en écrivant, parce que j'avais besoin aussi de savoir si toutes ces familles réfugiées, tous ces enfants cachés avaient un lien entre eux ou pas. Et en fait, il n'y avait pas eu de réseau de sauvetage. J'avais d'abord pensé à ça, au fait que peut-être ils avaient été aiguillés vers l'île aux Moines. Et en fait, non. Chacun est venu un peu de son côté, un peu dans les hasards et dans les rencontres de la vie. Et il y avait donc quatre familles et quatre histoires différentes. Et donc, l'idée pour moi était de les articuler pour que l'histoire soit compréhensible et agréable à lire tant qu'à faire. Mais effectivement, il y avait encore des zones d'ombre et il en reste toujours. Mais après, c'est vrai que l'affection qu'avaient beaucoup d'habitants de l'île aux Moines pour Irène a joué et m'a aidé à percer le mystère. En fait, elle venait de décéder et donc beaucoup avaient à cœur quand même de m'aider à retrouver les bribes de l'histoire et à reconstituer le puzzle, finalement.
Oui, c'est assez drôle parce que ça avait l'air d'être une femme à la fois un peu abrupte, enfin dure,
oui.
Et en même temps très attachante.
Complètement. Et c'est vrai qu'elle n'a eu ni enfant ni famille proche, mais elle avait vraiment des voisins, des amis, des gens qu'elle côtoyait depuis 50 ans, 60 ans, qui étaient très attachés à elle, effectivement.
Oui, mais ils étaient aussi liés par le sauvetage, hein, je pense. Enfin, ça les a,
ouais, complètement.
Ça les a rapprochés.
Consciemment ou inconsciemment, parce qu'il y avait aussi des enfants de gens qui ont contribué au sauvetage, qui savaient qu'ils ne pouvaient pas en parler en fait, avec leurs parents, mais qui savaient quand même que leurs parents avaient joué un rôle là-dedans.
Ah oui.
Ouais. Elle a notamment veillé des personnes de famille qui les avaient sauvées, sans que les petits-enfants ne comprennent pourquoi elle venait. Voilà, à la veillée mortuaire de la grand-mère ou du grand-père, et qui a compris après pourquoi. Parce que le grand-père ou la grand-mère a aidé d'une manière ou d'une autre sa famille pendant la guerre.
Alors justement, à propos du silence, comment est-ce que vous expliquez le silence des uns et des autres? Et comment est-ce que vous avez, malgré ce silence très pesant, fait des découvertes?
Après, le silence, c'est vrai, mais en même temps aussi l'envie, comme je vous disais, d'en savoir plus. Le silence, c'était surtout celui des protagonistes, et comme ils étaient quasiment tous décédés, c'était plus simple, peut-être, 80 ans après, d'enquêter. Je ne suis pas sûre que les protagonistes auraient été d'accord de parler, finalement, sur le moment. Et j'ai eu aussi beaucoup d'aide sur le silence de Paul Marx. Paul Marx, c'est donc le neveu d'Henri Marx, qui avait été un peu mon lanceur d'alerte. Lui, dans sa famille, il était le seul à vouloir parler, mais finalement, un seul parfois suffit à être le moteur pour les autres. Et donc voilà, donc, c'est aussi le rôle de l'enquêteur, du journaliste, d'aller titiller les gens et de leur expliquer le bien fondé finalement de la démarche.
Oui. Oui, mais oui, mais oui, enfin après cette question du silence, elle est vraiment enfin je pense que les victimes,
Centrale.
oui, elle est centrale et puis je pense que c'est pas facile en fait de se revendiquer de toute façon en tant que victime, c'est désagréable en
Oui.
fait.
Oui, sans doute, sans doute. Et puis, c'est aussi pour ça, je pense, qu'ils n'ont demandé une reconnaissance, que ce soit Violette ou son mari, seulement dans les années 60. C'était aussi avant une période où personne ne voulait les écouter.
Y a ça aussi, oui. Donc on peut penser qu'ils ont été aussi silencieux et puis qu'ils se sont habitués en fait au silence, quoi.
Oui. Et puis sans doute aussi heureux d'avoir été rescapés, de se dire voilà, la vie continue quoi.
Oui.
C'était vraiment le mot d'ordre de la période, de ce que j'ai compris.
Oui, c'est ça, oui, c'est on efface tout et on recommence. Et
Exactement.
quels autres enfants cachés avez-vous découvert en plus d'Irène sur cette île? Parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'une.
Justement, comme je disais tout à l'heure, il y a quatre familles, quatre histoires différentes. Donc, il y a eu Irène, il y a eu un enfant de l'oncle de Paul Marx, hein, celui qui pensait que son oncle était un vieux célibataire sans enfant qui était parti en Bretagne. En fait, il était parti avec une femme et un fils. Donc, le petit Robert, lui, c'était le plus jeune des cinq enfants cachés de l'île aux Moines. Et les trois derniers enfants cachés, ce sont trois cousins, en fait, qui s'étaient réfugiés là après avoir fui la Pologne au moment de l'invasion. Par Hitler. Et donc ses enfants s'appelaient Ilona, Daniel et Georges. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir rencontrer donc l'un des enfants cachés de l'île aux Moines, Georges. C'est le plus jeune hein, des enfants et il est toujours en vie. Il a d'ailleurs fêté ses 88 ans là au début de la semaine. Hein. Et lui, il avait des réticences au départ. Le silence, il venait aussi de lui. Il n'en a jamais parlé de cette histoire. Et finalement, il m'a aussi aidé à reconstituer le puzzle parce qu'il s'est rendu compte que cette histoire, elle méritait d'être racontée aussi bien pour eux que pour les gens qui les ont sauvés.
Oui, c'est ça, c'est aussi. Et puis aussi raconter, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, l'expérience aussi du retour à la vie après l'occupation.
Oui, c'était un aspect intéressant, effectivement, oui, dont on parle assez peu.
Oui, et de sa souffrance, en fait, parce que effectivement, pas reconnue comme victime, mais en même temps avec des forts traumatismes. Hein, vous écrivez que nul ne guérit de son enfance, à propos juste
Complètement.
en particulier des enfants cachés. Et donc, ça a permis aussi une reconnaissance peut-être pour eux et de les sortir de l'oubli.
Oui, complètement. L'idée, c'était qu'ils se reconnaissent comme des victimes à part entière, en fait. Georges aussi disait ça. Il disait, j'ai moins souffert que les déportés. Pour moi, ce n'est pas des souffrances qui sont comparables. En fait, on est vraiment sur deux histoires différentes et deux traumatismes différents. Mais bon, être séparé brutalement de ses parents et ne pas devoir, enfin, être obligé de ne pas dire son nom, de ne pas donner son origine, de se sentir persécuté, c'est forcément lourd de conséquences par la suite. Il le dit lui-même, il a mis des années à finalement vivre normalement. Il a été dans toute sa petite enfance caché sous la table, dans un arbre. Il était en permanence sur le qui-vive. Et pour moi, cette histoire, en fait, ces deux aspects, c'est à la fois leur statut à eux de victime qui longtemps a été occulté, et ça permet aussi de parler des personnes qui ont eu le courage de les aider, même par des petits gestes. Qu'on peut qualifier de héros quand même, quoi. C'est collectivement une opération de soutien qui s'est montée comme ça, spontanément, et où des habitants de l'île aux Moines ont refusé de voir en eux des juifs, quoi. Et pour eux, c'était des enfants à protéger, des enfants qui faisaient partie de leur communauté.
Oui, c'est vrai. Tout à fait. C'est quand même remarquable quand on sait que ça ne s'est pas toujours passé comme ça.
Non,
Voilà.
complètement.
Et surtout, en plus, sur une île où on pourrait avoir comme imaginaire que ce sont des lieux fermés où on n'accepte pas les
Tout à fait.
étrangers, quoi. On a l'impression
Et là, en fait,
c'est l'inverse là.
en tout cas pour la famille d'Irène, par exemple, ça a été le coup de foudre entre la famille et les habitants. Et c'est vrai que d'entendre encore parler d'eux tant d'années après, bah ça fait chaud au cœur quelque part. On se
Oui,
dit
ça
qu'il y a vraiment
console.
des liens très forts qui se sont créés, ça console.
Et donc, bah justement, votre récit s'ouvre sur les cendres d'Irène Coisse et se termine sur la tombe de Stanislas Arbus. Et avec mes élèves, on a rencontré une autrice de BD qui s'appelle Léa Muraviec, qui a écrit une BD qui s'appelle Le Grand Vide, et dans lequel elle imagine un monde où si l'on ne pense plus à vous, alors vous mourrez tout simplement. Et quand je l'ai rencontrée avec mes élèves, elle nous a dit que les cimetières permettaient de conserver le nom des gens et de penser à eux, et qu'ils continuent d'une certaine manière à vivre. Est-ce qu'on peut dire que votre livre est de cette manière, un tombeau, une manière de conserver la mémoire de toutes ces personnes qui peuplent votre livre ?
Certainement, parce que c'est vrai qu'Irène a son petit emplacement au Jardin du Souvenir, mais moi je dirais même que j'envisageais de faire ça comme un mausolée, parce que beaucoup de déportés n'ont pas eu de tombe. Et finalement, ce livre, oui, c'est une façon de les inscrire dans le temps, dans la durée, de faire connaître leur histoire et oui, d'essayer de transmettre aussi l'émotion que ça a suscité chez moi, quoi, de rencontrer des destins comme les leurs, clairement.
Ça, en tout cas, ça fonctionne pour le lecteur.
Tant mieux.
Donc, je sais que vous êtes en train d'écrire une suite. Et
oui,
est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Est-ce que c'est vraiment une suite ? Ou enfin, voilà, si vous voulez nous en dire un peu
plus.
C'est
un grand chantier pour l'instant, mais c'est vrai que c'est aussi un recueil de toutes les nouvelles informations que j'ai pu glaner depuis la parution, puisque au moment où le livre est paru, 10 jours après, j'ai eu contact avec quelqu'un qui a pu me dire où et avec qui Irène avait été cachée après l'arrestation de sa mère. Et ça, c'est une information que j'aurais tellement voulu avoir avant. C'est comme ça. Et là, j'ai aussi eu contact avec les descendants du commissaire aux questions juives qui a été responsable de l'arrestation de la plupart des juifs en Bretagne. Et c'est vraiment aussi intéressant de ce contact avec eux parce que finalement, eux aussi, ils ont été victimes, quoi. Les enfants, les petits-enfants qui n'ont rien demandé et qui n'adhèrent pas du tout aux idées de cet homme et qui ont subi finalement l'après-guerre d'une autre façon, quoi, voilà.
Ah, ça, c'est incroyable.
Et je m'intéresse, ouais, complètement. Et je m'intéresse aussi au parcours du quatrième homme, celui que j'appelle le quatrième homme, puisque donc le 19 mars 43, il y a eu quatre personnes juives arrêtées à l'île aux Moines. Il y a eu la mère d'Irène, la grand-mère d'Irène, Henri Marx, l'oncle de Paul qui m'a
le lanceur d'alerte
mise sur cette piste, exactement. Et il y avait aussi Isidore Cohen qui était à la fois très connu sur l'île, il est revenu vivre là aussi après-guerre, et pour autant sur lequel je n'avais qu'une page d'info, pas grand-chose. Beaucoup de gens qui l'avaient connu après-guerre, mais il n'en avait pas parlé non plus de sa déportation. Et lui, il était conjoint d'Ariane, donc comme Violette, mais dans l'autre sens, et donc il avait été prisonnier à Aurigny, une île anglo-normande au large de Cherbourg. Et donc là aussi, une histoire très singulière finalement, et que j'espère pouvoir raconter dans un livre qui pourrait sortir à l'été prochain.
Ah, d'accord. Bon, on attend ça avec impatience.
À suivre, voilà.
Merci beaucoup.
J'en profite pour signaler que j'ai une page Facebook au nom du livre, Les enfants cachés d'Île aux Moines. Donc, c'est l'occasion pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de venir au renseignement. Je mets un maximum d'infos sur les dédicaces, les conférences et les parutions sur cette page.
Oui, et puis des signatures aussi, hein, voilà,
tout à
pour
fait.
Rencontrer les lecteurs. C'est d'ailleurs comme ça que je vous ai découvert. Voilà.
Mais oui,
donc,
tout à fait.
Donc oui, c'est
une belle rencontre.
Une belle rencontre. merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci encore Julie Chitli pour cette rencontre. C'était Ma rencontre avec les enfants cachés de l'île aux moines de Julie Chitli.